Bonjour Ronan Hervouet.
Bonjour.
Vous connaissez bien la Biélorussie, vous y avez vécu plusieurs années et puis vous êtes allé enquêter dans les campagnes biélorusses pour comprendre les ressorts du système et pourquoi le monde rural était un soutien traditionnel d'Alexandre Loukachenko. Il faut d'abord préciser que les campagnes biélorusses sont restées collectivisées après la chute de l'URSS. Le kolkhoz, c'est vraiment le modèle qui domine.
Tout à fait, c'est une exception dans l'ex-URSS. En Biélorussie, le système collectiviste dans les campagnes a perduré après la chute de l'URSS. Donc aujourd'hui, dans les campagnes en Biélorussie, environ 70% de la production est faite par ces fermes collectives, hein, qu'on appelle dans le langage courant des kolkhozes comme à l'époque soviétique. 20% de la production est produite dans les jardins des familles et puis un peu moins de 10% de la production nationale est issue de l'agriculture privée.
L'exploitation collective est un modèle économique, mais c'est aussi un modèle social, un mode d'exercice du pouvoir avec une possibilité d'encadrer la population. Comment cet encadrement se fait-il?
Tous les habitants de la campagne travaillent dans le monde agricole, sont rattachés à un kolkhoz. Donc ils sont directement dépendants du kolkhoz pour leur salaire. Leur hiérarchie est située dans l'administration du kolkhoz. Et les directions de kolkhoz sont nommées par le pouvoir. C'est ce que Loukachenko appelle la verticale du pouvoir, c'est-à-dire que les comités exécutifs locaux à chaque échelle du territoire vont être nommés par le régime et ces comités exécutifs locaux peuvent eux-mêmes nommer par exemple des directeurs de kolkhoz. Donc l'encadrement, je dirais, économique s'accompagne d'une forme d'encadrement social et même politique.
C'est un lieu tout à la fois d'un contrôle politique très fort, mais aussi, vous le racontez, d'un attachement sincère à ce système.
La démarche de sociologue que j'ai eue, c'est aller voir par le bas, d'une certaine manière, ce qui se passait. Elle allait dans les villages, elle allait à la rencontre des kolkhoziens, mais aussi à la rencontre des enseignants dans les lycées agricoles, des vétérinaires, des employés de banque, bref, des prêtres, des artisans indépendants dans les campagnes, à la rencontre des gens qui peuplent ces territoires, et essayer de comprendre très concrètement comment ils vivaient, et voir à partir de là, à partir de leur mode de vie, des ressources dont ils disposaient, qui sont beaucoup plus complexes et variées que celles qu'on suppose au départ, quels étaient leurs rapports aux politiques, quelles étaient leurs attentes envers les autorités et quelles étaient finalement leurs représentations de Loukachenko et du régime autoritaire.
Alors justement, quelle est l'attente de ces populations envers le politique?
Alors c'est difficile évidemment de le dire en quelques mots, puisque j'y consacre une grande partie de mon ouvrage. Ce que j'essaie de montrer, c'est que finalement, il y a des ressources qui sont autorisées. On a un salaire avec le travail dans le kolkhoz, on a un lopin qui permet aussi d'avoir quelques ressources, mais il y a d'autres types de ressources. On peut vendre une partie de sa production, on peut éventuellement chaparder un petit peu de bois dans la forêt et le revendre, voler un peu d'essence dans le kolkhoz si le chef est d'accord, puisque le chef lui-même du kolkhoz, le directeur lui-même du kolkhoz, peut voler un certain volume d'essence, etc. Et donc il y a des ressources qui vont être soit autorisées, soit légales, soit parfois illégales, qui sont extrêmement variées et fragmentées sur le territoire. Au fur et à mesure, on comprend qu'il y a des mondes moraux qui s'organisent. Ces ressources, elles sont mobilisées dans des cadres sociaux, des formes d'interaction, des formes d'échange entre les personnes. Et petit à petit, on comprend que ces personnes vivent leur monde de manière morale. Ils ont l'impression de vivre dans un monde qui est à la fois solidaire et qui leur permet d'être dignes. Solidaire, puisqu'il y a de l'entraide, il y a des échanges, il y a des soutiens, etc. Et dignité, puisqu'il y a des formes de valeurs morales sur des scènes locales qui sont érigées, des gens qui travaillent, des gens qu'on dit qu'ils travaillent du matin jusqu'au soir, de la nuit à la nuit, qui sont honnêtes, qu'ils sont investis, qu'ils ne regardent pas leur peine, qu'ils sont enthousiastes, qu'ils sont ingénieux. Tous ces éléments font que ce monde qui, de l'extérieur, apparaît très verrouillé, très contrôlé, presque aliénant pour les populations, offre en fait de manière indirecte des possibilités de se construire des mondes qui semblent pour eux, enfin en tout cas c'est ce qu'ils me disent, qui sont non seulement vivables, non seulement acceptables, mais parfois même désirables.
Ronan Hervouet, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le goût des tyrans, une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, aux éditions du bord de l'eau.